Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Gabriel Taïeb de l'équipe Podcastine.
Au fil de l'histoire, rares sont les organisations à avoir éveillé autant de fantasmes, de débats, voire de querelles que la franc-maçonnerie. Associée à l'ésotérisme et aux sociétés secrètes, elle possède pourtant une riche histoire intrinsèquement liée à celle de notre pays et à celle de notre région en particulier, en commençant par le Limousin. C'est notamment là que se trouve le véritable berceau de la franc-maçonnerie moderne, une odyssée retracée dans le numéro de rentrée de notre partenaire Le Festin dans un article intitulé « L'épopée de la franc-maçonnerie à Limoges et en Limousin » dont vous êtes l'auteur. Bonjour Laurent Bourdelin.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, médiéviste de formation, spécialiste notamment de l'histoire du Limousin et l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Limoges, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça. Oui, absolument.
Laurent Bourdelin, dans cet épisode, il sera donc question de l'histoire de la franc-maçonnerie en Limousin, sur laquelle nous allons évidemment revenir. Mais avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que la franc-maçonnerie ?
Alors, la franc-maçonnerie, c'est une association de gens. Pendant longtemps, elle a été masculine, même si les femmes y étaient associées depuis le XVIIIe siècle. Et c'est d'abord une association dont les membres essaient de se perfectionner eux-mêmes. En langage maçonnique, on dit de tailler sa pierre brute. Et l'idée, c'est qu'en se perfectionnant soi-même, peut-être qu'on peut contribuer à perfectionner la société. En tout cas, pour dire ce que c'est, on peut aussi dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas une secte. On y entre librement. On est libre d'en partir comme on veut. Et contrairement à bien des fantasmes, le but n'est pas de chercher à tirer des ficelles secrètes ou à dominer le monde, mais d'abord à travailler, je vous le dis, sur soi-même. Alors en revanche, c'est une association qui est discrète, je dirais plus que secrète, tout simplement parce que par le passé, elle a été victime de persécutions, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et donc, si on comprend bien dans votre article, il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais plusieurs loges, plusieurs obédiences.
Oui.
Comment ça se concrétise ?
Alors, il y a plusieurs obédiences qui suivent, on va dire, des rituels différents. Par exemple, certaines sont plus christiques, d'autres, comme le Grand Orient de France, sont beaucoup plus laïques. Elles sont inspirées aussi par différents pays. Hein. La franc-maçonnerie est née dans l'espace britannique, et puis après, c'est diffusé au XVIIIe siècle vers la France, mais c'est essentiellement les rites qui peuvent différer et les sujets de travaux. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des loges qui travaillent beaucoup plus sur la symbolique et puis d'autres sur des questions de société.
De regard de l'historien, selon vous, qu'est-ce qui explique que la franc-maçonnerie ait suscité toujours beaucoup de fantasmes ? Et quelle part de vérité peut-on accorder à certains de ces préjugés ?
En fait, les fantasmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où l'association est discrète, dont les membres ne révèlent pas à l'extérieur, enfin en tout cas, ils peuvent révéler qu'ils le sont, mais ne doivent pas révéler les noms de leurs autres frères, comme on dit, ou sœurs en franc-maçonnerie. Donc à partir du moment où il y a une discrétion, eh bien, à une période où on est plutôt très exposé, où on expose même sa vie privée, ce qu'on mange au restaurant, sur les réseaux sociaux, etc. La discrétion interroge et donc va nourrir le fantasme. Mais ça existe, je dirais, depuis que la franc-maçonnerie existe. Et puis en plus, les francs-maçons jouent un rôle parfois dans la politique, dans l'histoire du pays. Par exemple, au moment de la préparation de la Révolution française, ou au moment de la Troisième République, au moment de faire aussi avancer certaines lois sociales, comme la loi Simone Veil, par exemple. Et donc, ça peut nourrir des fantasmes. Ils sont là, ils essayent de diriger le monde, la politique, les finances, etc. Mais l'historien peut dire que ce n'est pas vraiment le cas.
Come On va remonter un petit peu le cours du temps. Dans votre article, vous indiquez que la franc-maçonnerie s'est implantée à Limoges vers 1750. Mais en vous lisant, on comprend assez rapidement que la ville a également joué un rôle majeur dans le développement du modèle français de l'organisation. Donc, quelle histoire lie un petit peu les deux entités au XVIIIe siècle?
Oui, alors, si vous voulez, c'est surtout le Grand Orient de France, d'ailleurs, qui s'est développé à Limoges. Les premières réunions ont eu lieu dans une tour des remparts de la ville de Limoges, qui est liée d'ailleurs aussi à son histoire, qui s'appelait la tour Pissevache, parce qu'il y avait un ruisseau qui coulait à cet endroit-là. Donc les premières réunions ont eu lieu là. Alors ça s'est développé d'abord dans la bourgeoisie, on va dire, dans les, je mets ça entre guillemets, les élites peut-être un peu plus cultivées, peut-être un peu plus bourgeoises, qui à ce moment-là pouvaient d'ailleurs diriger la ville, faire partie des institutions civiles, judiciaires, militaires. Et progressivement, à travers le temps et jusqu'au début du 19e siècle, elle s'est ouvert à d'autres professions, y compris des professions de manuelles, avec une loge qui existe toujours aujourd'hui, qui est apparue en 1827, qui s'appelait les Artistes Réunis. Et les membres de la franc-maçonnerie ont beaucoup contribué à façonner l'aspect de Limoges, alors sur le plan urbanisme, le logement social, le coopératisme, le socialisme aussi. Et donc, cette franc-maçonnerie s'est beaucoup développée à Limoges, où elle est d'ailleurs toujours plutôt développée.
Alors justement, historiquement, quelles sont un petit peu les grandes figures de la franc-maçonnerie en Limousin? On peut par exemple noter l'appartenance d'un des maires de Limoges, François Alluot, à l'une des loges locales.
Oui, oui, il y en a eu plusieurs jusqu'à récemment, je dirais. Oui, alors il y a des figures de gens qui ont dirigé la ville. Il y a aussi Pétignot Beaupéra à la fin du XVIIIe siècle. Il y a François Alluot qui était à la fois un porcelainier et qui a été maire de Limoges. Donc forcément, à partir du moment où vous appartenez à la franc-maçonnerie, où vous avez des responsabilités politiques, vous allez essayer de faire passer votre idéal, qui est quand même un idéal de fraternité, et ça va jouer un rôle dans la politique, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà, je n'ai pas dit tout à l'heure que la devise du Grand Orient de France, qui a inspiré la devise française, et pas l'inverse, enfin la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et aussi, on pourrait rajouter laïcité.
Vous avez évoqué l'aspect politique. Est-ce qu'il y a justement un bord politique clair à la franc-maçonnerie ou pas particulièrement?
Non, parce que je dirais que la franc-maçonnerie, c'est un lieu où des gens qui sont très différents, socialement, politiquement, peuvent se rencontrer pour essayer de parler ensemble. Alors, généralement, sont plutôt, je ne sais pas si je peux dire exclus, mais l'extrême droite ou les gens qui ont des valeurs qui sont contraires à celles que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire celles de la République, en fait.
Alors justement, en 1940, le gouvernement de Philippe Pétain interdit les sociétés secrètes et les francs-maçons sont fichés et interdits notamment d'être fonctionnaires. Oui. Cela encourage par ailleurs de nombreux membres à rejoindre la résistance sur le territoire. En Limousin, comment cela s'est-il manifesté historiquement?
Alors d'abord, les loges ont été fermées et à Limoges, le temple, c'est-à-dire le lieu de réunion, de cérémonie le plus important qui était situé dans la rue des coopérateurs à Limoges a été fermé. Le mobilier a été vendu et puis on s'en est pris aux francs-maçons, on les a traqués, parfois emprisonnés, etc. Et donc un certain nombre sont entrés dans la résistance. Soit pendant la guerre ont été victimes du nazisme, je pense par exemple à Arsène Bonneau, à François Perrin et à d'autres. Et certains aussi, des résistants, sont entrés dans la franc-maçonnerie après la guerre. Alors je pense sans doute au résistant limousin le plus connu, qui s'appelait Georges Guingouin, qui était, comme on disait, le préfet du maquis, le chef des maquisards limousins. Lui est entré en franc-maçonnerie en 1947. Un autre résistant s'appelait Lucien Berdazé. Il travaillait à la mairie de Limoges et il a subtilisé un grand nombre de cartes d'identité vierges pour en faire des faux papiers pour les résistants, pour les juifs, etc. Et lui aussi est entré en maçonnerie. Donc c'est dans les deux sens, parce qu'en fait, les valeurs de la résistance sont communes à celles de la franc-maçonnerie.
Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage ? La franc-maçonnerie a-t-elle toujours une influence importante en Limousin ?
Alors, je pense que oui, parce que les gens qui en font partie, souvent, s'engagent, alors pas simplement politiquement, il y a des gens qui s'engagent politiquement, il y a des gens qui s'engagent socialement, syndicalement, culturellement aussi. Donc je pense qu'elle a toujours un rôle d'influence assez important, et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle permet à des gens différents de parler entre eux. Je ne l'ai pas dit, je fais un petit retour en arrière, mais en 1905 à Limoges, il y a eu des révoltes chez les porcelainiers, chez les ouvriers de la porcelaine, qui demandaient des augmentations de salaire, mais aussi le respect des ouvrières par les contremaîtres. Et on a essayé de régler ce conflit, par exemple, dans une loge que j'ai citée, qui est la loge des artistes réunis, où des gens différents se sont parlé, patrons, ouvriers, pour essayer d'aboutir à un compromis. Et je pense que cette culture-là existe encore aujourd'hui.
Sur le territoire, on dénombre combien de loges ?
Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire, à la fois sur Limoges et sur le Limousin, elles sont, on va dire, assez nombreuses. Assez nombreuses. Beaucoup se sont créées, d'ailleurs, depuis les années 1960, 70, se sont diversifiées. Et au fur et à mesure que la population a augmenté, en fait, eh bien, des petites villes autour de Limoges, de la couronne périurbaine, ont leur propre loge, en fait.
Laurent Bourdela, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette histoire, à l'histoire de la franc-maçonnerie et à l'histoire de Limoges même
D'abord, moi je suis, je vais dire, un spécialiste de l'histoire culturelle et littéraire, alors nationale mais limousine, et de l'histoire limousine aussi, plus précisément. Donc j'ai écrit sur l'histoire de Limoges, et quand on travaille sur l'histoire de Limoges, il y a deux types d'organisations qui jouent un rôle important. Il y a les confréries religieuses, dans l'histoire, mais jusqu'à aujourd'hui, et il y a la franc-maçonnerie, parce que j'ai évoqué le coopératisme, le socialisme, le syndicalisme, et donc c'est pour ça que je me suis intéressé aux deux, en fait, aux confréries religieuses et à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, on voit au XVIIIe siècle des gens qui faisaient partie de confréries religieuses rejoindre la franc-maçonnerie.
Et en termes techniques, comment on arrive à documenter, à travailler sur une confrérie donc discrète,
oui,
pour
alors,
reprendre vos termes ?
Alors d'abord, il y a des travaux qui ont déjà été faits, notamment il y a un historien qui malheureusement est décédé de la franc-maçonnerie en Limousin, qui a publié plusieurs livres, qui s'appelle Michel Laguioni. Donc j'ai utilisé ses travaux. Il y a des catalogues d'expositions qui ont été publiés, et puis on a accès aussi au musée de la franc-maçonnerie qui est à Paris, donc qui nous a prêté là pour le festin des œuvres iconographiques intéressantes. Et puis il y a aussi un fonds de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale de France où on peut trouver beaucoup de choses.
Laurent Bourdelin, merci. Votre article « L'épopée de la franc-maçonnerie à Limoges et en Limousin » est à retrouver dans le numéro de septembre du Festin.
Merci Gabriel Taïeb. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. Iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.